Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, bon lundi. J'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est l'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. Après avoir connu beaucoup de succès en France, notamment les légumes que l'on appelle « moches », ou de façon un petit peu plus polie, de formes irrégulières, ont fait leur apparition dans les supermarchés québécois, plus particulièrement les Maxi. Il y a de ça quelques semaines, à la mi-mars. C'est une initiative qui a comme objectif, entre autres, de réduire le gaspillage alimentaire, mais ça a aussi bien d'autres avantages. J'en parlerai en deuxième partie de l'émission avec Isabelle Jonca, agronome chargée de projet du réseau des fermiers de famille chez Équiterre. Et puis d'abord, vous savez ici, notamment à travers l'émission « C'est bon pour la santé », on parle souvent des bienfaits de l'activité physique, du sport, qui sont multiples chez les enfants, et c'est tout aussi vrai pour les jeunes qui présentent des déficiences ou des limitations fonctionnelles, et peut-être même plus que chez les autres enfants parce que leur état de santé général peut grandement s'améliorer. La passion de bouger, du mouvement, ça peut se développer au cœur même de notre famille, mais aussi à l'école. Mais encore, faut-il que les cours d'éducation physique soient accessibles, inclusifs? Et si ce n'est pas, comment on peut le faire? Comment on peut rendre ces cours accessibles? J'en parle à l'instant avec Claude Dugas, directeur du département des sciences de l'activité physique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Claude Dugas, bonjour.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, vous aussi?
Oui, très bien, merci.
Est-ce qu'il neige à Trois-Rivières?
Pas mal.
Nous, ça s'est calmé un peu à Montréal. Dans cette publication électronique que vous avez publiée, qui s'intitule « L'inclusion en éducation physique », vous avez coécrit ça avec Mathieu Point, si je ne me trompe pas.
Exactement.
Votre souhait était de rejoindre, bien sûr, les professeurs d'éducation physique pour qu'ils aient un outil très concret si jamais, dans leur classe, arrivait un petit bout de femme ou un petit bout d'homme avec un handicap ou une déficience. Est-ce que c'est parce qu'il y avait un besoin? Vous aviez observé un manque en ce sens.
En fait, oui, il y avait un grand besoin. Il y avait aussi un grand besoin de bien préparer les futurs éducateurs physiques. Donc, il y avait cet objectif-là dans l'écriture du livre. Et c'est toujours un grand défi d'adapter, de modifier, quel que soit le niveau d'enseignement, on est toujours confronté à des modifications à faire et des ajustements à faire. Donc, c'est parti de cette idée-là et du besoin d'avoir des informations en français. Il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'informations en langue anglaise.
Vous départagez assez rapidement les deux termes « inclusion » et « intégration » qui sont pas, selon vous, tout à fait, qui n'ont pas le même sens.
Pas vraiment. Ils sont, en fait, les deux termes ont des visées relativement similaires, des fondements assez similaires là, de liberté, d'égalité, d'opportunité, de chance pour tous. Par contre, dans le cas de l'intégration, c'est cette idée de continuum, donc d'une intégration progressive compte tenu des progrès de l'élève, qui peut aller de services très spécialisés à une inclusion ou une intégration en classe régulière qui n'est pas complète. Dans le cas de l'inclusion, qui est un mouvement beaucoup plus récent, c'est basé sur les mêmes fondements, mais sans égard aux capacités de l'élève. Donc, il y a un placement en classe régulière sans tenir compte du niveau de difficulté et évidemment en offrant de l'aide importante à l'enseignant pour qu'il puisse faire l'inclusion de cet élève.
C'est peut-être un terme « inclusion » qui est plus large.
Oui, plus large et certainement avec une autre visée, avec cette idée de ne jamais, jamais exclure un élève.
Oui.
Et qui représente un défi énorme, là, on est d'accord.
Oui. Claude Dugas, il y a aussi une précision ou une nuance que vous apportez que j'ai trouvée extrêmement intéressante, c'est la différence entre le handicap personnel et le handicap social. C'est-à-dire que si le milieu est adapté, la personne handicapée n'a pas d'obstacle, donc elle est en quelque sorte peut-être, c'est drôle à dire comme ça, mais moins handicapée.
Oui, c'est sûr que la capacité qu'on a de reconnaître les besoins des élèves, des enfants, d'adapter, de bien adapter, de bien modifier et de tenir compte constamment de l'évolution de l'enfant va faire qu'il va ne pas percevoir sa différence ou presque pas.
Mm-hmm.
C'est vraiment l'objectif ultime.
Oui. Oui, parce qu'on parle souvent, ou en tout cas du moins peut-être plus souvent, de sport adapté.
Oui,
mais
beaucoup.
C'est pas de ça que vous parlez dans cette publication.
Assez peu. J'aborde très peu le sport. On aborde très peu le sport dans le volume, plus parce que ça s'adresse aux éducateurs physiques et qu'il n'y a pas que le sport. Ouais. Dans l'éducation physique, il y a le développement de toute autre habileté. Il y a l'idée de développer un savoir-faire, des savoir-faire physiques qui vont donner à l'élève des moyens de vivre une vie active et de participer ultimement à des sports. Mmh. Donc, on l'a vu dans une perspective plus large.
Mmh. Vous en faites vraiment un très beau portrait de ces jeunes-là qui vivent soit avec des difficultés d'apprentissage ou différents handicaps. Quel est leur portrait, Claude Dugan, dans les écoles au Québec?
Oui, le portrait statistique, il est intéressant hein, parce qu'on a quand même une diminution de la clientèle étudiante et une augmentation de la clientèle qui présente des déficiences ou des handicaps.
Mm-hmm.
Donc, il y a ce besoin qui est très, très présent et qui va en augmentant. Par contre, il y a un autre portrait qui est peut-être moins réjouissant, c'est la capacité d'intégration ou d'inclusion dans les classes dites ordinaires, qui a tendance à beaucoup diminuer à mesure que l'élève progresse du préscolaire au niveau secondaire.
Mm-hmm.
Donc, il reste encore beaucoup de travail à faire pour permettre à tous les élèves, quel que soit leur type de déficience ou de handicap, de participer pleinement.
Et on voit que le tableau peut être assez large dans cette publication-là, parce que ça va de la déficience sensorielle à une difficulté plus d'apprentissage.
Oui.
Ça peut aller partout, être très vaste. Là.
Oui, c'est très vaste. C'est clair que les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage représentent la plus grande proportion des élèves qui ont des besoins particuliers. Mais c'est clair que nous, dans la publication, on a beaucoup plus abordé la dimension motrice, sensorielle et les handicaps plus connus.
Comment on fait, et là, ça, c'est la question peut-être, là, comment on fait pour rendre les cours d'éducation physique plus accessibles, finalement?
Bien, et je pense qu'il y a un grand besoin, ou pas un besoin, on doit communiquer. Moi, je reviens avec mes étudiants très souvent sur l'importance de communiquer et avec les parents, et avec les enseignants qui ont eu des élèves dans le passé, pour bien comprendre les besoins, bien comprendre l'évolution de l'élève. Et il y a évidemment la communication à l'intérieur de l'école pour s'entendre sur les besoins, sur comment on interagit avec cet élève-là. Ça m'apparaît pour moi les éléments clés qui vont permettre de faire des ajustements.
Oui, parce que avant d'adapter son cours, l'éducateur physique doit connaître les particularités de l'enfant, une déficience, un handicap, point de vue santé, qu'est-ce que ça signifie, puis après, point de vue dans son cours, au sein même de son cours, qu'est-ce que ça peut signifier.
Et ça, on a fourni quelques outils dans le volume. Il y a des grilles d'observation, il y a des outils systématiques d'évaluation. Mais moi, j'insiste beaucoup avec mes élèves avec mes étudiants pour qu'ils développent leur propre grille d'observation qu'ils vont faire régulièrement dans différentes situations, d'apprendre à bien regarder leurs élèves et à voir l'évolution.
Parce que, et vous le mentionnez, ça débute par une préparation qui est adéquate.
Oui.
Et qui se fait, j'imagine, là, l'entrée des classes se fait en septembre, qui se fait dès le début, là.
Oui, tout à fait. Puis même si on peut avoir des informations avant l'entrée des classes sur les élèves qui ont un handicap ou une déficience, qui vont fréquenter l'école, c'est précieux, là, de lire. Aujourd'hui, l'accessibilité à l'information est très grande. Hein? Il s'agit de faire la démarche avant pour connaître les élèves qui seront avec nous et quelles sont leurs difficultés et déjà commencer à regarder quels seront les défis à relever.
Et on fait comment pour que les élèves qui ne présentent pas de limitations, de déficience ou de handicap embarquent également dans cette proposition-là?
Bien, je pense que la question du dialogue est importante, mais là, il y a quand même des petits outils intéressants qu'on retrouve dans notre volume et sur le web un peu partout. Des petites mises en situation, des jeux de rôle qu'on peut faire avec les élèves. Pour qu'ils puissent vivre des expériences, que ce soit d'emprunter un fauteuil roulant et de leur demander de faire des courses, qu'on leur demande de s'attacher à leur bras dominant, puis ensuite de lancer uniquement avec leur bras non dominant. Et ils vont vivre, c'est quoi ces difficultés-là? Moi, avec mes étudiants, je fais toujours une séance en gymnase où je les fais travailler à l'aveugle pendant presque une heure. Et chaque année, j'ai des étudiants qui viennent me voir puis ils me racontent comment ça a été difficile, comment ils ont vécu ça avec beaucoup d'anxiété et de stress, là, cette petite heure sans voir.
Qu'est-ce que vous pensez que ça amène à ces élèves-là, autant ceux qui vivent avec une limitation que les autres, d'être tous ensemble à pratiquer une activité physique?
Ben moi, je pense que ça les amène à reconnaître et à vivre les différences, puis à vivre des expériences agréables. L'avantage de l'éducation physique, c'est que c'est une autre modalité. On apprend d'une autre façon. On apprend avec son corps. On est en action. C'est très, très différent de toutes les autres heure de la journée à l'école, là, c'est un moment privilégié et je pense qu'il faut le faire vivre à tout le monde avec le plus de joie possible et le plus souvent possible.
Oui. Claude Dugan, à quoi les éducateurs physiques, donc vos étudiants à l'université, sont confrontés? Est-ce que c'est le manque de matériel? Est-ce que c'est le manque d'encadrement des directions?
Oh, je pense qu'il y a un peu de tout cela. Moi, je continue de penser qu'il y a aussi au départ encore de la... un peu de difficulté à bien comprendre les élèves différents. Ça reste un défi pour moi à chaque année de les amener à mieux comprendre les enfants qui sont différents, qui ont des difficultés importantes et comment ils peuvent eux-mêmes les aider. Ça reste pour la plupart des jeunes éducateurs physiques un de leurs grands défis et une difficulté majeure pour eux.
Est-ce que de les faire bouger, par exemple, dans un fauteuil roulant ou les yeux bandés est une façon de leur faire comprendre cette différence?
C'est une première étape, hein, parce que le vrai défi, c'est ensuite de vivre dans une classe avec 25 ou 26 ou 30 élèves et d'être capable d'offrir des défis à tous, donc d'offrir des défis aux élèves qui ont moins de potentiel, à ceux qui en ont plus et à ceux qui ont une limitation fonctionnelle. C'est le vrai défi de l'éducateur. C'est le vrai défi de l'éducateur physique, de tous les enseignants. C'est de trouver la façon de rendre les activités stimulantes pour tous.
Oui, l'espace nécessaire pour que tout le monde se réalise pleinement. Parlant de potentiel, Claude Dugan, est-ce que les attentes ou les compétences recherchées devraient être les mêmes pour un enfant avec une limitation ou un enfant qui n'en a pas?
Oui. Si on prend la compétence la plus nouvelle du ministère, c'est-à-dire celle d'adopter un mode de vie sain et actif à long terme, pour moi, celle-là demeure vraie pour tous les élèves. Par contre, dans le quotidien de l'évaluation, c'est évident que l'éducateur physique doit s'adapter et doit voir beaucoup plus en termes de progression et d'évolution de l'élève plutôt que de l'atteinte d'un marqueur spécifique à un moment donné. Mais sur celui de l'adoption du mode de vie, ben, c'est ce qu'on vise tous, là. C'est ce qu'on souhaite qu'il puisse arriver à tous les enfants, de vivre des expériences positives dans leur cours d'éducation physique qui, ultimement, pourraient se transférer dans leur quotidien comme jeune adulte ou comme adulte plus tard.
Oui. Et j'ai l'impression, comme je le disais tout à l'heure en introduction, que les impacts positifs sont peut-être encore plus probants chez ces jeunes-là parce qu'il peut y avoir une amélioration nette de leur état de santé, douleur chronique ou quoi que ce soit. Là.
Tout à fait. Ou dans leurs habiletés motrices, hein? Dans l'idée d'être capable de faire des choses... différemment ou avec plus de facilité à la fin d'une année scolaire, c'est je crois, un accomplissement important.
Mm-hmm. Est-ce que vos étudiants, les futurs éducateurs physiques du Québec, ont cette crainte ou cette angoisse-là de recevoir des enfants différents dans leur classe?
Oui, c'est clair. Je pense que quand on les questionne un peu plus longuement, tout le monde se dit prêt, mais quand on leur présente les défis, ouais. C'est évident qu'il y en a qui sont plus anxieux, et c'est normal. Je pense que c'est tout à fait normal.
Mm-hmm.
Il faut juste bien les outiller. Et ce n'est pas qu'à la sortie de l'université qu'on est outillé. Là. Il faut continuer à s'outiller tout le long de sa carrière. Là.
Oui, et puis c'est vrai qu'en le vivant, en ayant cette rencontre avec un mm-hmm. enfant qui présente différentes déficiences ou limitations, on peut apprendre davantage. Il y a aussi le contact avec les parents, j'imagine, qui est important.
Oui, moi je pense que c'est probablement l'endroit où le contact avec les parents est à privilégier.
Mm-hmm.
Et à discuter avec eux. Puis toute l'idée de ce mode de vie sain et actif, c'est aussi avec les parents hein, qu'on en discute et qu'on l'élabore, qu'on le construit.
Mm-hmm.
C'est d'autant plus important.
Oui, et il y a aussi, en terminant, ce truc-là, peut-être, que vous donnez à savoir des mentors.
Oui.
Que des fois, l'enseignant ou le parent est peut-être pas suffisant ou peut-être pas la personne adéquate à ce moment-là donné, mais qu'un mentor, un enfant plus vieux,
oui.
peut être une personne pour guider l'enfant. Et ça amène beaucoup cette relation aux deux.
Oui, ça amène c'est une relation positive, c'est-à-dire que celui qui est le mentor va développer de nouvelles habiletés de communication, il va utiliser ses connaissances et il va interagir différemment avec l'élève qui a une limitation.
Mm-hmm.
Et celui qui a une limitation, bien, va profiter de plus d'informations, de plus de rétroaction, puisque l'enseignant ne peut pas être constamment avec lui.
Oui, surtout que lorsque l'on pense à des classes très chargées, 25, oui. 30 étudiants, là, bien sûr. Et
ça demande une autre forme d'organisation.
Mm-hmm. Et bien sûr, il y a le défi sportif Altergo mm-hmm. là, pour justement cette initiation-là. Aux enfants différents qui pratiquent une activité sportive, et ce, avec beaucoup de plaisir. Vous
oui.
serez présent à partir du 27 avril, Claude
Dubé? Oui, je serai là.
Ben, au plaisir de vous reparler peut-être à ce moment-là. Alors.
Certainement.
Claude Dugan, vous êtes directeur du département des sciences de l'activité physique à l'UQTR, auteur, co-auteur de cette publication qui s'intitule « L'inclusion en éducation physique », qui est vraiment, je tiens à vous le dire, un document très, très complet que j'ai eu beaucoup de plaisir à feuilleter. J'ai beaucoup appris à l'intérieur. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Isabelle Jonca, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agronome chargée de projet pour le réseau des fermiers de famille chez Équiterre. Et là, pour nous parler des légumes moches, mais comme je le dis en introduction, de façon plus polie, aux formes irrégulières qui ont fait apparition sur les tablettes des supermarchés québécois, notamment les Maxi qui appartiennent au groupe Loblan. En quoi l'apparition est là? On parle plus des pommes de terre. Ils ont commencé cette initiative-là avec les patates. En quoi cette initiative-là, qui est toute nouvelle, là, de quelques semaines, est une belle initiative ici pour les consommateurs?
Mais en fait, ce qui est très intéressant de cette initiative-là, c'est qu'à la base, quand on sait que les producteurs récoltent des légumes et lorsqu'elles ont des formes irrégulières, elles doivent passer tout de suite au déclassement. Fait qu'on sait qu'à la ferme, il y a une quantité assez importante de légumes qui peut être de l'ordre de 30 à 50 puis ça peut dépendre des productions, des types de légumes, mais il y a déjà à la base une certaine quantité de légumes qui passeront pas et pour lesquels on trouvera pas non plus de mise en marché. Et souvent, les légumes qui doivent être déclassés ont une autre destination. Elles peuvent aller à la transformation. Par exemple, on peut penser que ça va aller pour faire des chips ou des patates frites, des choses comme ça, les légumes aux formes différentes ou aux formes inhabituelles. Déjà, là, une initiative comme ça, ça va permettre de valoriser et de vendre au prix des légumes frais. Souvent, les prix de la transformation pour les producteurs, ça peut être moins intéressant. Alors, de vendre sur le marché des légumes frais des produits comme ça aux formes différentes.
Mm-hmm. Et j'imagine que pour les agriculteurs qui cultivent, en ce sens, cette campagne-là, pour le moment, ne vise que les pommes de terre du Québec. Pour les producteurs de pommes de terre, c'est aussi une bonne nouvelle?
C'est sans doute une bonne nouvelle. Je connais pas exactement le prix dans les pommes de terre conventionnelles. Là, combien est-ce que ça se vend, par exemple, une poche de 50 livres? Là, c'est le format qu'on voit souvent. Et puis, lorsqu'ils ont les pommes de terre déclassées, quel prix ils vont aller chercher versus si ça a la transformation? À ce niveau-là, ce serait bon de voir directement avec la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec. Fait que je sais pas la marge exactement que les producteurs iront chercher. Mais sans doute que c'est un débouché qui est intéressant pour eux. Là.
Mm-hmm. Et le consommateur, il faut le dire, paiera ses pommes de terre 30 % moins cher. Donc, dans les poches aussi, pour le budget familial, quoi que ce soit, c'est positif aussi.
Bien, ça, c'est une excellente nouvelle parce qu'on sait que le marché des fruits et légumes, les produits frais, ça a beaucoup augmenté depuis quelques années. Là, c'était une augmentation de des fois de 10 puis 15-20 % par année, soutenue sur 2-3 ans. Alors, la part des légumes frais a beaucoup augmenté dans le panier d'épicerie des consommateurs. Donc, voir comme ça certains aliments qui auront un prix à la baisse, là, c'est une très, très bonne nouvelle, effectivement.
Mm-hmm. En même temps, il ne faut pas se leurrer. Ces légumes ou ces fruits-là étaient naturellement repoussés parce que boudés des consommateurs. Est-ce que cette initiative-là peut amener à changer les mentalités?
Je pense que ça doit être accompagné d'une campagne de sensibilisation. On a vu ce qui s'est fait en France. Mm-hmm. Déjà, l'Angleterre avait pris le pas assez tôt, là, il y a quelques mois. En France aussi, là, la chaîne, je me souviens pas que c'est pas Intermarché, mais j'ai un blanc de mémoire sur le nom de la chaîne, mais il y a eu toute une campagne de sensibilisation et très, très chouette, très ludique, très le fun, oui. À savoir les légumes moches aussi. On les achète aussi, on les trouve coquets, on les trouve... pourquoi on les bouderait? Ben non, on n'a pas à bouder ces légumes-là, ils sont tout aussi bons pour notre santé. Et puis, lorsqu'on a juste un petit coup de couteau, des fois, à mettre pour le retailler, c'est pas quelque chose qui est important. Alors, je pense que si c'est accompagné, il y a le prix sûrement qui va attirer les gens, mais si on informait les gens qu'on n'a pas à être buté par un poivron dans l'étal des poivrons, qui a une forme un peu croche rentrée par l'intérieur ou... un concombre qui tourne à angle droit, à ce moment-là, on devrait se réjouir. Mais je sais pas au Québec quelle sera l'acceptabilité, si on veut, l'ouverture d'esprit des consommateurs. Est-ce que les gens sont déjà tout ouverts à ça ou est-ce qu'ils ont tendance à rebuter, à être repoussés par ces légumes-là? Et quelle initiative? Est-ce que la chaîne d'épicerie Maxi, là, à travers les chaînes Loblaw, est-ce qu'ils vont faire une campagne d'affichage? Est-ce qu'ils vont les valoriser? Est-ce qu'ils vont rendre ça chouette? Là, je ne sais pas, mais je pense qu'avec un petit coup marketing, là, ça devrait bien faire avaler la pilule.
Oui, puis là, on débute avec les pommes de terre, mais ils annoncent que prochainement, ils vont ajouter les pommes aussi aux offres de produits aux formes dites irrégulières. Donc, on pourra voir la continuité aussi avec ce nouveau fruit.
Ah, et l'offre devrait s'élargir. Si on pense seulement aux carottes qui sont croches, qui ont deux pattes puis trois pattes, vraiment, je pense que dans les carottes, il doit y avoir une grosse proportion de légumes qui sont déclassés. On peut penser aux betteraves, on peut penser en plein été, là, justement, que les poivrons, qu'on s'attend qu'ils vont tourner rouges, sont encore à deux couleurs, vert et rouge. Il y a vraiment, vraiment tout un marché, toute une panoplie. à voir si les grandes chaînes seront prêtes à offrir à plus bas prix. Est-ce que ça veut dire pour eux, c'est des marges bénéficiaires qui sont réduites sur ces légumes-là? Puis est-ce qu'ils souhaitent véritablement les rendre plus accessibles, réduire le gaspillage, faire des économies aux consommateurs? Ou est-ce que, d'un autre côté, si leurs marges sont moins intéressantes, là-dessus, ils n'iront pas fort? C'est une initiative vraiment qui est à surveiller, mais c'est une excellente nouvelle pour le consommateur et pour l'agriculteur au Québec.
Oui. Surtout, et vous en parliez de gaspillage alimentaire, les chiffres sont assez effarants en ce qui a trait au gaspillage alimentaire par année. Là, il y a l'Organisation des Nations Unies qui sortait ce chiffre, 1,3 milliard de tonnes par an là, de nourriture perdue ou gaspillée. Là, ça correspond à ce chiffre-là. C'est énorme, Isabelle Jonquin.
C'est vraiment énorme. Et puis, ça, c'est à plusieurs étapes de la chaîne. Alors, lorsqu'on sait que, bon, tout de suite à la ferme, ils se gaspillent des aliments qui ont été récoltés, là, c'est un premier déclassement, c'est une première porte. Ensuite, on sait que dans le transport, la livraison, il y aura des légumes qui vont arriver chez un distributeur ou chez un grossiste dans un état qui est peut-être pas convenable. Ensuite, par le temps que ça va rester en entrepôt, que ça voyage jusqu'au magasin, sur les tablettes de l'épicerie, il y a encore là, il va avoir un tri, il va avoir une portion qui va être gaspillée. Lorsqu'on l'achète, qu'on l'apporte chez nous et qu'on prend une semaine, des fois, pour manger une laitue, bon, ben, il y a encore une partie là qui est déclassée. Et ensuite, il y a une partie qui est gaspillée. Je ne sais pas si les chiffres qui sont sortis de 1,3 milliard comportent aussi ce qu'on gaspille parce qu'on ce qu'on mange pas dans notre assiette. Mais bon, à plusieurs étapes de la chaîne, il y a du gaspillage, de la perte de qualité pour des raisons de conservation, de trop longs délais entre la récolte et le moment où on consomme les aliments. Donc, déjà, si on coupe un peu à la source et qu'on apporte aux gens des légumes qui ont simplement une forme différente, parce que dans la nature, c'est comme ça que ça pousse, parce que dans le sol, il y a effectivement des roches en dessous d'une semence de carotte, et parce que, bon, une pomme de terre frappe aussi une roche à un moment donné, puis fait le tour. Ce sont des choses qui sont normales et qui devraient quand même... Mais le problème, c'est pas tant le consommateur, je pense, qu'il choisit pas ces aliments-là, c'est qu'on se fait proposer au supermarché des poivrons tout pareils, des
brillants tellement,
à peu près 10 cm de long. On se fait proposer des concombres anglais qui sont tous pareils. Ben à ce moment-là, nous, on s'habitue à prendre ce qu'on nous offre.
Oui. Isabelle Jonquin, très rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, je veux absolument parler avec vous des paniers bio, qui est une initiative qui est privilégiée par Équiterre. Si l'on veut s'en procurer ou quoi que ce soit, qu'est-ce que les consommateurs peuvent faire?
Oui, en fait, c'est vraiment très, très simple. On se rend sur le site internet panierbio.org, panier avec un S, donc panierbio.org. Et là, il y a une carte du Québec avec les 500 endroits qui sont pointés, où il y a les points de livraison. Très, très facile. On entre notre code postal ou notre ville. Et puis là, on va voir les points de livraison qui sont près de chez soi. Et la formule des paniers bio, ce que ça mais pas prescrit, mais ce que ça implique, c'est qu'on s'engage d'avance, on s'engage pour toute la saison.
Isabelle Jonquin, je dois vous interrompre parce qu'il reste très peu de temps, mais on mettra ces informations-là sur notre site. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Merci à vous.
Au revoir, Isabelle Jonquin. Eh bien, on glissera bien sûr ces infos-là sur notre site. On se donne rendez-vous de